Journal d'un corps.
De Daniel Pénac.
Douze ans, 11 mois,
14 jours, 1936. J'ai 12 ans, bientôt 13. Je suis scout. C'est la fin des grandes vacances. Je participe à un camp scout quelque part dans les Alpes. Nous sommes en guerre contre une autre troupe qui nous a volé notre fanion. Il faut aller le récupérer. La règle du jeu est simple. Chacun de nous porte son foulard dans le dos, coincé dans la ceinture de son short, notre adversaire aussi. On appelle ce foulard une vie. Comme je ne suis pas bien costaud, je perds ma vie dès le début des hostilités. Plaqué à terre par deux ennemis, ma vie est arrachée par un troisième. Il me ligote à un arbre pour que je ne sois pas tenté, même mort, de reprendre le combat. Et il m'abandonne là, en pleine forêt, attaché à un pin dont la résine colle à mes jambes et à mes bras nus. Mes ennemis s'éclipsent.
Le grand silence des bois s'abat sur mon imagination. Ce silence de la forêt bruit de tous les possibles. Je me dis que les bêtes, dérangées par nos jeux, vont maintenant réapparaître. Je me sens seul, mais je ne me dis pas qu'on me retrouvera jamais. Je sais qu'une fois fini, les hostilités finies, quelqu'un viendra me détacher.
Une fourmi grimpe sur ma chaussure, puis sur ma jambe nue qu'elle chatouille un peu. En elle-même, je la juge inoffensive.
Même si elle m'épique, même si elle entre dans ma short puis dans ma slip, ce n'est pas un drame. Tel est mon état d'esprit.
Tranquille. Oui, cool.
C'est quand je vois la deuxième fourmi grimper sur ma sandale que je perds le contrôle de mon imagination.
Il n'est pas question de piqûre à présent. Je vais être recouvert de fourmis dévorées vives.
Je ne me dis pas que les fourmis vont grimper le long de mes jambes.
Qu'elles vont me dévorer le sexe et l'anus.
On s'introduira en moi par mes orbites.
Mes oreilles, mes narines, qu'elles vont me manger de l'intérieur. En cheminant par mes intestins et mes sinus, moi vomissant par une bouche morte des colonnes de travailleuses occupées à me transporter miette par miette.
Je ne me représente pas ces supplices, mais ils sont tous dans le hurlement de terreur que je pousse maintenant, les yeux fermés, la bouche immense.
Mon corps hurle par cette voix.
Mes sphincters hurlent aussi démesurément que ma bouche.
Je me vide le long de mes jambes, je le sens, mon short se remplit, je coule.
La diarrhée s'est mêlée à la résine.
Je suis couvert de larmes.
De morve, de résine.
Et de merde.
Pourtant, je vois bien que la fourmilière ne soucie pas de moi, qu'à part ces deux fourmis vagabondes, les autres m'ignorent complètement. Je le vois, mais c'est trop tard, l'effroi est plus fort. Ce qui s'est emparé de moi ne tient plus aucun compte de la réalité. C'est tout mon corps qui exprime la terreur d'être dévoré vif, la terreur conçue par mon esprit seul.
Plus tard, quand l'abbé Chapelet me demandera...
Tu croyais sérieusement que les fourmis allaient te dévorer ?
Eh, j'y répondrai.
Ah non.
Et quand elle me demandera ?
Avoue que tu as joué à la comédie.
J'y répondrai.
Oui.
As-tu pensé ce que va dire ta mère ?
Ah non, non. Je n'ai pas pensé à maman. D'ailleurs, je me suis dit que la seule personne que je n'avais pas appelée pendant que je criais, c'était...
Maman.
Et je fus renvoyé. Maman vint me chercher. Le lendemain, je commençais ce journal en écrivant. Je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur. je n'aurai plus jamais peur.
12 ans, 11 mois, 24 jours.
Depuis qu'ils m'ont renvoyé de l'école, maman ne décolère plus.
Ce soir, elle m'a sorti du tube sans attendre que je me savonne.
Elle m'a forcé à me regarder dans la glace de la salle des bains.
Elle me tenait les épaules comme si je cherchais à m'enfuir.
Ses doigts me faisaient mal.
Elle n'arrêtait pas de répéter.
Regarde-toi. Mais regarde-toi.
J'ai serré les poings, j'ai fermé les yeux, elle criait.
Ouvre les yeux. Regarde-toi. Mais regarde-toi!
J'avais froid, tout mon corps tremblait.
Nous ne sortirons pas d'ici tant que tu ne t'auras pas regardé. Regarde-toi!
Mais je n'ai pas ouvert les yeux.
Tu ne veux pas ouvrir les yeux? Tu ne veux pas te regarder? Toujours la même comédie? Très bien! Tu préfères que je te dise à quoi tu ressembles? À quoi ressemble le garçon que je vois? À quoi ressemble-t-il d'après toi? À quoi ressembles-tu? Veux-tu que je te dise? Tu ne ressembles à rien! Tu ne ressembles absolument à rien!
Quand j'ai ouvert les yeux, le miroir était embué.
S'il avait assisté à la crise des moments, papa m'aurait dit à l'oreille:
un garçon qui ne ressemble absolument à rien? Mais dis-moi, c'est très intéressant ça. À quoi doit finalement ressembler un garçon qui ne ressemble à rien?
13 ans, un mois, 2 jours.
Je l'ai fait. J'ai fait tomber le drap de mon armoire et je me suis regardé dans la glace. J'ai décidé que c'était fini. J'ai fait tomber le drap, j'ai serré les poings, j'ai respiré un bon coup. J'ai ouvert les yeux et je me suis regardé.
Je me suis regardé. Yes.
C'est comme si je me voyais pour la première fois. Je suis resté très longtemps devant le miroir. Ce n'était pas vraiment moi à l'intérieur. C'était mon corps, mais ce n'était pas moi. Je ne suis pas fou. Je sais très bien que je jouais avec l'impression que ce n'était pas moi. Mais un garçon quelconque abandonné au fond du miroir...
Je me demandais depuis combien de temps il était là.
Mon fils, tu n'es pas fou. Tu joues avec tes sensations. Comme tous les enfants de ton âge. Tu les interroges, tu n'en finiras pas de les interroger. Même adulte. Mais quand tu seras très vieux, retiens bien ça. Toute notre vie, il faut faire un effort pour en croire nos sens.
Et c'est là que je l'ai aidé. J'ai mis les verrous. Je me suis maintenu.
Ah.
Je ne ressemblais à rien. Je suis un enfant mou, blanc, à la poitrine creuse.
Si maigre, on pourrait y glisser le courrier sous mes omoplates.
Dixit Violette, on voit mes veines. On peut compter mes os. Mais aucun de mes muscles n'est visible comme l'écorché du Larousse. Je n'ai que la peau, les veines, le mou et les os.
Bien, on est tenu. C'est mou, c'est flasque.
Comme dirait maman.
C'est vrai, du coup, n'importe qui peut prendre ma vie.
M'attacher à un arbre?
M'abandonner dans la forêt?
Se moquer de moi? Ou dire que je ne ressemble à rien?
Ce n'est pas toi qui me défendrais, hein, mon corps?
Tu me laisserais bouleter pour la fourmi, toi?
Tu me chierais dessus, mon corps?
Maman, ouvrant la porte de ma chambre et me surprenant nu devant l'armoire, à me regarder.
Qu'est-ce qui se passe? Tu te trouves beau?
Tout objet est d'abord objet d'intérêt.
Donc mon corps est objet d'intérêt?
Eh bien... moi, je vais te défendre.
Je te défendrai, même contre moi.
Je vais
te faire des muscles.
Je vais
fortifier tes nerfs.
Je vais
m'occuper de toi tous les jours.
Je vais
m'intéresser à tout ce que tu ressens.
Mon corps est objet d'intérêt, donc je vais écrire.
Le journal de mon corps.
13 ans,
1 mois,
8 jours. Je vais aussi écrire le journal de mon corps, parce que tout le monde parle d'autre chose. Ceux qui écrivent leur journal tout court... Nadir ou Henrik, par exemple, parlent de tout et de rien. Des émotions, des sentiments, des histoires d'amitié, d'amour, de trahison, des justifications à ne plus en finir. Ce qu'ils pensent des autres, ce qu'ils croient que les autres pensent d'eux. Ils écrivent sous le coup de l'émotion, mais ils ne se rappellent même plus de quelle émotion.
13 ans, 2 mois, 15 jours. Ce que j'aime quand je m'endors, c'est me réveiller pour le plaisir de me rendormir. Se réveiller à la seconde où on s'endort, c'est épatant. C'est papa qui m'a appris l'art de l'endormissement.
Observe-toi bien. Tes paupières s'alourdissent, tes muscles se relâchent. Sur l'oreiller, ta tête pèse enfin son poids de tête. Tu sens ce que tu penses n'est plus tout à fait pensé. Comme si tu commences à rêver, en sachant que tu ne dors pas encore.
Comme si je marchais en équilibre sur un mur, prêt à tomber du côté du sommeil?
Exactement. Dès que tu te sens basculer côté sommeil, secoue la tête et réveille-toi. Reste sur le mur. Ton réveil durera quelques secondes pendant lesquelles tu pourras te dire « Je vais me rendormir ». C'est une promesse exquise. Réveille-toi encore pour en jouer une deuxième fois. S'il le faut, pince-toi dès que tu te sens basculer. Reviens à la surface le plus souvent possible et laisse-toi enfin couler.
Laisse-toi enfin couler. C'est peut-être cela, mourir. Ce serait très bon si nous n'en avions pas si peur. peut-être nous nous réveillons chaque matin que pour retarder le moment délicieux où nous allons mourir. Quand papa est mort, il s'est endormi une dernière fois.
Note pour Lison.
Ma chère Lison, début d'adolescence calamiteux.
La mort du père.
Papa.
La mère furibarde.
Fainéant.
Le jeune corps abandonné dans l'armoire à glace.
Dès le lendemain de sa mort, j'irai dans la maison comme une ombre sans corps.
Arrête ton cinéma, rien manger depuis 15 jours.
Mais pour la personne qui m'a vraiment redonné corps. Jouissance qu'à faire de moi un garçon couillu. Jouissant sans vergogne de ses aptitudes physiques. Ce fut Violette qui faisait chez nous le ménage, la lessive et la cuisine. Violette.
L'homme doit tout apprendre sur son corps.
Absolument tout.
On apprend à marcher.
À se moucher.
À se laver.
Au départ, l'homme ne sait rien.
Rien de rien.
Il est bête comme les bêtes.
Les seules choses qu'il n'a pas besoin d'apprendre... C'est respirer.
Voir.
Entendre.
Manger.
Pisser.
Chier.
S'endormir.
Et se réveiller.
Et encore.
On entend.
T'entends ce que tu dis?
Il faut apprendre à écouter.
On voit.
Tu peux pas regarder où tu vas?
Mais il faut apprendre à regarder.
On mange.
Mais il faut apprendre à couper sa viande.
On chie.
Mais il faut apprendre à aller sur le pot.
On pisse.
Ça.
Mais quand on pisse plus sur les pieds, il faut apprendre à viser.
Il pisse de travers. Apprendre.
C'est...
D'abord.
Apprendre.
À
maîtriser.
Son.
Corps.
14 ans.
10 mois.
18 jours. J'avais mal calculé mon coup. Résultat, la paume de mes mains et les genoux écorchés. Une douleur de chien.
Cuisante. C'est vraiment le mot juste.
Quand Violette m'a dit qu'elle allait nettoyer cela avec du calva, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander.
Ça va faire mal?
Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? L'agneau, ce n'est pas de la bibine. Donne ta jambe.
J'ai tendu la jambe.
Tu es prêt?
J'ai serré les dents et les paupières. J'ai fait signe que oui. Violette a frotté la plaie et je n'ai absolument rien senti. Parce qu'elle s'est mise à hurler à ma place. Ça m'a d'abord sidéré et puis ça nous a fait rire. J'ai dit à Violette que ça ne marcherait pas pour le second genou puisque maintenant je connaissais le truc.
Tu paries? Passe-moi l'autre jambe.
Cette fois-ci, elle a poussé un autre cri. Un cri d'oiseau incroyablement aigu qui m'a vrillé les tympans. Même résultat. Rien senti non plus.
Ça, mon petit gaillard, ça s'appelle de l'anesthésie auditive.
Un après-midi que j'avais attrapé 5 truites en remontant le cours de la rivière, tandis qu'elle m'attendait, assise sur son pliant de toile rouge. Violette m'avait appris à pêcher les truites à la caresse.
Claque-les bien contre la pierre et n'aie pas peur des serpents. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses.
5 truites que j'avais jetées vives dans son panier. Cet après-midi-là, elle est morte. Et à la 6e truite, je l'ai trouvée, tombée de son pliant, suffoquant, cherchant l'air comme le poisson que je venais de lâcher en courant vers elle. Et j'ai crié son nom. Et j'ai frappé son dos, croyant qu'elle avait avalé quelque chose de travers. Et j'ai dégrafé son corsage.
Elle appelait l'air qui l'étouffait, l'air qui devait la sauver et qui maintenant l'étouffait. Ses mains agrippaient mes bras et ne pouvant pas me parler, pas même me dire qu'elle mourait. Elle mourait, nous le savions, elle et moi, et j'ai répété.
Je ne veux pas qu'elle te meure, je ne veux pas qu'elle te meure.
Plusieurs fois jusqu'à cette seconde où je ne me suis plus vu dans ses yeux, où ses yeux si proches n'ont plus rien regardé.
Quand Robert et Marianne nous ont trouvés, la truite vivait encore.
Une fois ramené par maman à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre et me suis mis à remplir le cahier de cette seule phrase, répétée indéfiniment, jusqu'à extinction de mes forces. J'ai hurlé
« Violette est morte !»
jusqu'à que l'épuisement me fasse tomber le stylo de ma main. Ce n'était pas la fatigue d'écrire, c'était la fin.
14 ans.
11 mois.
3 jours.
13 septembre 1938.
La grève de la faim? Toi? On en reparlera demain.
Ça nous fera des économies.
Elle ne comprend vraiment rien. C'est intéressant, quelqu'un qui croit tout savoir et qui comprend si peu les gens. Mais je ne veux pas m'intéresser à elle.
Je ne dirai plus jamais maman.
Elle ne comprend vraiment rien. 14 ans, 11 mois, 6 jours.
tu as bien dormi, mon petit sucre d'or, je viens voir...
Ah, fou! Ce matin, elle a voulu m'embrasser.
J'ai sauté de mon lit.
Je ne veux pas qu'elle me touche.
Mais la tête m'a tourné.
Eh, je suis tombé.
Elle a voulu me relever, j'ai roulé sous le lit pour qu'elle ne m'attrape pas.
Elle a dit que ce n'était pas en pension qu'elle allait me mettre.
Mais chez les fous.
Elle a ajouté d'ailleurs...
C'est de la comédie.
C'est de la comédie.
Tu manges en cachette, je t'ai vu.
Je le répète tout le temps, pour se rassurer.
Regarde-moi ça, c'est une porcherie, ta chambre, tu ranges jamais rien. Je souffre à cause de toi, je ne sais même pas qui est-ce qui t'a fait. Tu me fais honte, espèce de porc, tu ressembles à rien. Regarde-moi ça, t'es ça.
C'est que je meurs, c'est ton petit voleur. Tu vas avoir ça sur ta conscience toute ta vie, tu vas avoir ça.
Ans.
11 mois.
8 jours.
Elle a engagé une nouvelle cuisinière.
Roland. Bonjour, je m'appelle Roland.
Comme elle ne vient plus dans ma chambre, elle envoie Roland me porter mon déjeuner. Elle lui fait faire mes plats préférés. Ce matin, des pâtes aux tomates et au basilic.
La sauce des bocaux de violette.
Je n'ai touché à rien. Je me suis juste penché au-dessus des assiettes pour respirer à fond. Avec une serviette sur la tête... comme pour une inhalation.
Le parfum de la tomate et du basilic
te remplit vraiment. Il se répand dans tout le vide que la faim a creusé en toi.
Le parfum de la muscade aussi.
Tu n'es pas nourri, mais tu es rempli.
14 ans, 11 mois, 11 jours.
Quand on ne mange pas, on n'a pas envie de parler.
Même si je parlerai difficilement.
Ça ne me coûte rien de me taire.
Se taire longtemps, c'est comme si on se nettoyait à fond.
14 ans, 11 mois, 11 jours.
Je suis tombé dans l'escalier en allant aux toilettes. J'ai mal partout quand je respire. Je ne peux prendre qu'un tout petit bout d'air à la fois. Quand le docteur est sorti de ma chambre, il y a eu des cris. Il criait que c'était...
inadmissible !
Roland criait !
Mais c'est pas de ma faute tout de même !
Où est votre patronne ?
C'est gentil, moi.
Je me suis endormi.
C'est l'oncle Georges qui m'a réveillé. À lui, je lui ai parlé. Je lui ai dit pour la pension. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Tu te feras plein de camarades.
Roland !
Et est venu l'avertir que...
Madame est arrivée !
Ils se sont enfermés dans le salon, mais ils se disputaient fort que j'ai entendu des mots.
Des phrases entières même.
Complètement folle.
C'est mon fils.
C'est le fils de Jacques.
Jacques n'était pas un père.
C'est mon neveu. Et comptez sur moi pour être son oncle.
Me donner des leçons, d'éducation, vous à moi, sous mon toit, sous mon propre toit.
Il y a eu un long silence et je me suis endormi.
C'est encore l'oncle Georges qui m'a réveillé. Il m'a dit...
La pension, j'en fais mon affaire. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux manger ? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ?
J'ai répondu...
Un bol de lait froid avec une tartine de résine.
En m'emportant mon plateau, il m'a dit...
De ne plus jamais recommencer. On ne joue pas comme ça avec sa santé. Ton corps n'est pas un jouet. Avale ça. Et habille-toi.
Deux mois, 17 jours.
Décembre 1940.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Les anniversaires me rappellent cette première partie de ma vie où maman me demandait ce que je croyais avoir mérité comme cadeau. Je l'entends encore.
Hein, d'après toi, qu'as-tu mérité comme cadeau ?
Une femme si peu attentive aux autres.
Ans, 3 mois et 12 jours.
Inutile de me le cacher plus longtemps. Je ne désire pas Simone.
Et réciproquement.
Nos corps ne s'accordent pas.
Et puis je n'aime pas son odeur.
Je l'aime.
Mais je ne peux pas la sentir.
En amour, il n'y a pas d'autre tragédie.
Avec Simone, nos corps ne se disent rien.
Nous ne faisons pas corps.
Quoi ?
Nous ne faisons pas corps. L'expression faire corps. Par exemple, ce matin, notre lit était à peine défait.
25 ans, 3 mois et 22 jours. 4 février 1949.
26 ans, 5 mois et 2 jours.
Hein?
Ben quoi?
Redis la date.
26 ans, 5 mois et 2 jours.
26 ans, t'es sûr?
Ça fait un trou d'un an.
Ben oui, ça fait un an que je n'ai pas écrit. C'est toujours comme ça quand il m'arrive quelque chose d'important. En l'occurrence, un coup de foudre. L'urgence n'était pas de le noter, mais de le vivre. Ce jour-là, je me revois le dire aux camarades. Soirée chez Benoît. On frappe à la porte. J'ouvre.
Bonsoir, je suis Mona.
Wouah ! Et je reste Baba, éperdu d'un amour immédiat, inconditionnel et définitif.
C'est fou le crédit que le désir fait à la beauté.
Mona est une perfection. Mon cœur a fondu comme un plomb.
Ma vie n'attendait qu'elle.
Foudre,
feu,
lave et volcan.
Ah, cet éblouissement de l'amour.
Je reste comme un crétin debout dans l'encadrement de la porte.
Quelle beauté.
« 26 ans, 8 mois et 7 jours. Depuis 3 mois, Mona et moi ne quittons plus notre lit. Et pour toujours, nacre, soie, flamme et perles, perfection du regard de Mona, le velours infime de sa peau, la tendre lourdeur de ses seins, la rondeur exacte de ses épaules, tout à mon exacte mesure, à ma juste température, à ma narine et à mon goût. Ah, la saveur de Mona. »
Nos mains et nos lèvres se sont apprises d'abord, puis nos sexes se sont accordés. Nos sexes nous en usons jusqu'à plus soif. Nous les préparons et nettoyons à la langue comme du fond de gamelle, comme du dos de cuillère. Nous les contemplons dans leur gloire et leur épuisement. Le corps a ses propres ressources, c'est fou. Ça s'appelle le bonheur ?
Eh oui.
26 ans et 8 mois.
En matière de jouissance,
le lexique n'a rien trouvé de plus évocateur que le verbe chavirer.
C'est vrai qu'on chavire.
Pourtant, si on croit le dictionnaire,
au 19e siècle,
chavirer stigmatisait l'échec.
Le faux pas dans la carrière sociale.
Oh là là, ce jeune homme a chaviré.
Ce jeune homme a chaviré.
Il a chaviré.
Chavirer, ça veut dire tomber, non?
Exactement. Ce verbe ne concernait absolument pas le plaisir.
Il ne désignait que le naufrage.
Alors qu'en compagnie de Mona,
Je chavire. 27 ans.
J'ai trouvé ma femme.
J'ai trouvé la halal de ma vie.
Et depuis que nous partageons la même couche, rentrer chez moi, c'est regagner ma tanière. Il ne s'agit pas de célébrer le temps passé, mais d'honorer celui qui ne passe pas
dans ses bras.
« 28 ans, 2 mois, 17 jours, jeudi 27 décembre 1951. »«
Naissance de Bruno. Un bébé nous est né. Installé dans la maison comme s'il était là depuis toujours. Et que le monde était arrivé ensuite. J'en reste sans voix. Mon fils est un objet de stupeur familière. Devenir père, c'est devenir manchot. Depuis quelques mois, je n'ai plus qu'un bras. L'autre porte Bruno. Manchot du jour au lendemain. On s'y fait. »
« 29 ans, vendredi 10 octobre 1952. »«
Mon anniversaire ? Je m'en souviendrai. » Brandissant Bruno pour le présenter aux invités comme la 8e merveille du monde, je suis tombé avec lui dans l'escalier. Je suis tombé en avant et j'ai roulé jusqu'en bas des marches. 11 exactement. Instinctivement, je me suis renfermé sur Bruno. Tout en roulant, j'ai maintenu sa tête contre ma poitrine. Je l'ai protégé de mes coudes, de mes biceps, de mon dos. J'étais une coque refermée sur mon fils.
J'ai senti le tranchant des marches sur mon dos, sur mes os, mon bassin, mes rotules, mes chevilles, ma colonne vertébrale, mes épaules. Je me suis transformé en amortisseur humain. Une manifestation spectaculaire de l'instinct paternel ?
30 ans, 7 mois.
Cette différence entre le câlin de pure tendresse et celui que l'on consent pour en finir avec les pleurs. Dans le premier cas, le bébé se sent au centre de l'amour. Dans le second, il sent l'envie de le jeter par la fenêtre.
Chut ! Allez, rendors-toi. Rendors-toi, je t'ai dit. Rendors-toi. C'est bien.
D'où vient à Mona cette aisance dans la manipulation des bébés ? J'ai toujours peur, moi, de les casser.
30 ans.
11 mois et 13 jours.
1953.
Naissance de Lison. Je ne pensais pas qu'un enfant pouvait naître en souriant. C'est pourtant le cas de Lison cet après-midi à 5h10. Mon premier réflexe devant un nouveau-né n'est pas de jouer au puzzle des ressemblances, mais plutôt de chercher sur ce visage tout neuf les signes d'un tempérament.
C'était déjà le cas à la naissance de Bruno.
Ronde, lisse, reposée avec le sourire d'un petit Bouddha.
Massif et chaud.
Qui pose sur le monde un regard où réside une intention d'apaisement manifeste.
Ma petite Lison, méfie-toi d'un père qui, d'entrée de jeu, t'attribue la faculté de pacifier le monde.
Note pour Lison.
Ma chère Lison, interruption de 5 ans dans ce journal à cause ou grâce à la construction du bonhomme social.
Ascension professionnelle.
Bagarre politique.
Arrête d'être têtu.
Je suis pas têtu, j'ai raison.
Débat en tout genre.
Allô ? Bon, ça arrive ou ça arrive pas ? Je vais pas attendre des heures, j'ai pas de temps à perdre.
Colloque. Mesdames et messieurs, bienvenue au 13e colloque.
Mesdames et messieurs, bienvenue au 25e colloque.
Discours. Rencontre.
Hé, hey, taxi.
Voyage aux quatre coins du monde.
Conférence.
Article.
T'as décidé d'arrêter, je te dis.
Le débat il est ouvert, mais allô, j'ai raison.
Vous avez toujours
raison. Tu as toujours raison de toute façon.
J'ai jamais tort.
C'est vrai, j'ai été pas très présent pour mes proches.
Et puis, Lison et Bruno ne me laissent pas une seule seconde à moi.
34 ans, 6 mois et 10 jours, 1958.
Lison est à l'âge où l'enfant engage son corps dans le dessin. C'est tout le bras qui dessine. Épaules, coudes et poignets. Cela me rappelle quand papa me guidait pour m'apprendre à dessiner.
Sa main sur la mienne, il m'aidait à donner à la réalité le contour le plus exact que ses pinceaux avaient ébauché.
Du dessin, nous passâmes à l'écriture.
Sa main, toujours guidant la mienne, il me faisait écrire des lettres après m'avoir fait détourer au crayon les marguerites qu'il avait dessinées à l'aquarelle.
C'est ainsi que j'ai appris à écrire.
Trace-les avec soin. Les mots, ce sont des pétales.
Je n'ai jamais retrouvé mes cahiers d'écriture, mais il m'arrive encore de sentir la main de mon père sur la mienne dans le plaisir enfantin que j'éprouve à dessiner mes lettres.
34 ans, 9 mois.
J'ai des boucles magnifiques, c'était incroyable.
Mon amie Fanny se souvient de sa mère par le biais de sa minuscule écriture, dont elle évoque avec émotion.
Des boucles parfaitement formées de R et de V. J'adore lire son écriture.
De ma mère à moi, il me reste l'image d'un regard qui réclamait des comptes.
As-tu mérité ton existence ?
Deux yeux exorbités et une voix pointue. Le souvenir de ses yeux et de ses petits préceptes moraux, nauséabonds comme des baies de l'âme.
C'était pourtant une jolie femme, aux boucles blondes, au regard lumineux, au sourire éclatant. Toutes les photos l'attestent.
À mon amie Fanny, je le dis.
Ne te fie pas à mon sourire, c'est celui de ma mère. Trente-cinq ans, un mois et 25 jours, vendredi 5 décembre 1958.
On n'a jamais retrouvé le corps de maman. Disparu probablement sous les décombres du tunnel dans la ville où nous vivions.
Le 27 mai 1944.
Elle était allée en ville relever ses loyers. Maman était propriétaire d'un immeuble.
Cet après-midi-là, les alliés ont bombardé.
Attention ! Par ici ! Par ici, par ici ! Venez par la tunnel ! Amenez-vous !
Vous êtes où ? Par là !
Dépêchez-vous !
Par là, il y a du monde !
Allez ! Allez !
Dès le hurlement des sirènes, il y eut un grand mouvement de population vers la gare Saint-Charles, proche de son immeuble. On suppose qu'elle s'est réfugiée dans le tunnel, elle aussi. Hélas, c'est la gare qui était visée. Le tunnel s'effondra sous le pilonnage.
Il y avait beaucoup de morts et des disparus.
Ironie du sort, l'immeuble, lui, est le seul quartier à n'avoir pas été touché. C'est une lettre de l'oncle Georges, 2 mois plus tard, qui m'a annoncé la disparition de maman.
Et que j'héritais de cet immeuble.
Tiens, c'est la première fois dans ce journal que je parle de la mort de maman.
36 ans, 11 mois et 21 jours, samedi 1er octobre 1960.
Au square, Bruno et un garçonnet de son âge sacrifient au rituel de comparer leurs biceps. 2 petits bras pliés à angle droit, 2 poings fermés, 2 biceps bandés, 2 visages théâtralement crispés par l'effort.
Nous passons nos vies à comparer nos corps.
Moi, à 15 ans, sur la plage, j'évaluais mes biceps et les abdominaux des garçons de mon âge. Non mais tu t'es vu sérieux, guimauve sur pattes.
À 18 ans ou 20 ans, je scrutais ce renflement sous le maillot de bain. Ça craint.
À 30, à 40, ce sont leurs cheveux que les hommes comparent.
À 50 ans, le ventre.
À 60 ans, les dents.
Pas en perdre.
Note pour Lison.
Ma chère Lison, mon corps change, mon corps vieillit. Je m'ausculte, m'examine, mais je sais déjà une chose. Hors de question que je m'institue le spécialiste de mes maladies. J'ai mal à la tête.
Là, j'ai de la fièvre, je suis exacerbé. Faut vraiment que je trouve quelque chose, voir un médecin.
J'ai des ganglions, je sais que c'est très grave.
J'endors plus, faut vraiment que je fasse quelque chose.
Ça veut pas me lâcher.
Et moi, j'ai mal à la tête.
Je sais pas qui, mais.
Dis-moi quelque chose, qu'est-ce que je peux
faire? J'ai mal!
Est-ce que j'ai de la fièvre?
C'est grave!
38 ans, 10 mois.
Tout bien pesé, me dis-je dans le noir d'une insomnie. Je préférais être aveugle que sourd. Ne plus entendre. Passer sa vie dans un aquarium à regarder les autres vivre. Non merci. Je veux encore entendre la respiration de Mona endormie. Les craquements de la maison. Écouter le silence lui-même. Le silence. Le silence. Le silence.
Quarante ans. 3 mois et 20 jours.
Mon regard tombe sur Lison. Elle est tout à fait immobile, mais étonnamment animée de l'intérieur. Elle me sourit et sans bouger davantage, me dit « Mon corps ne danse pas, mais mon cœur, lui, danse. Oh, ma Lison, le bonheur sans autre raison que le bonheur d'être. »
Un an, 9 mois.
Trop tiré sur la corde ces derniers temps. Dîner arrosé, soirée tardive, nuit brève. Bruno ! Réveil instantané, travail acharné, présence aux miens, présence aux amis, présence au bureau, présence aux clients, présence au ministère. Attention de chaque instant. Réactivité, autorité, aménité, convivialité, efficacité. Contrôle, 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 contrôle. Et cela depuis des jours, contrôle, des mois, contrôle, des années.
Contrôle.
Une débauche énergivore de mon corps. L'angoisse s'insinuera alors dans ma fatigue. Et ce n'est plus le monde qui me paraîtra trop lourd, mais moi-même au sein du monde.
Voilà ce que chuchotera l'angoisse à l'oreille de ma conscience cette nuit.
Tu deviens à moi impuissant, vain et mensonger. Et le monde pèsera encore plus lourd que son poids. Réveil ensanglanté.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
43 ans, 9 mois. Le creux laissé par ma tête dans l'oreiller rempli d'un sang noir en voie de coagulation.
Ça vient de mon nez. Il y en a partout.
J'ai dû saigner pendant mon sommeil.
Oh là là, qu'est-ce que...
En conseil d'administration, le lendemain, une autre hémorragie. Toujours la narine gauche.
Sachant que notre robinet produit toutes les 4 heures 20 centilitres de sang, calculez la quantité globale écoulée en 24 heures. Étant donné par ailleurs que le corps humain contient en moyenne 5 litres de sang à l'âge adulte, combien de temps faudra-t-il au patient pour se vider jusqu'à sa dernière goutte? Vous avez 2 minutes.
43 ans, 9 mois. La peau vieillit. Cette phrase anodine a fait mouche.
Celle-là, c'est une vieille peau. Je veux pas me la piffrer.
Disait maman, en parlant des gens qu'elle n'aimait pas.
Mais qui aimait-elle?
Vieille peau, vieille baderne, vieux concon,
vieille
carne, vieux chinook,
vieux débris,
vieux machin, vieux crouton, vieux cochon, vieille ganache,
vieux dégoûtant. Vieille ganache,
vieux cochon,
vieux dégoûtant.
Les mots, la langue, les expressions toutes faites laissent entrevoir quelques difficultés à entrer dans la vieillesse d'un cœur léger. Quand est-ce qu'on y rentre, d'ailleurs? À quel moment devenons-nous vieux? 45 ans, 1 mois et 19 jours.
Ben, début de presbytie.
Diagnostic de l'oculiste.
C'est grave?
Dédoublement des images, par défaut d'accommodation. Votre œil vieillit.
Un classique, apparemment.
Je vous propose des séances de gymnastique oculaire, pour muscler vos yeux.
Il me dit que cela permettra de retarder les moments où je devrais porter des lunettes.
C'est inévitable, les exercices?
Hélas, oui. Toujours dans les eaux de la quarantaine.
Passons directement aux lunettes, alors.
Je lui dis.
L'oculiste ne comprend pas.
Débat.
Je comprends très bien, mais essayez de comprendre, vous.
Il ne comprend pas que je ne veuille pas gagner 2 ou 3 ans.
Regardez, vous pouvez gagner quelques années.
Je ne comprends pas, cherchez pas à comprendre.
Je vous dis que vous pouvez gagner quelques années, vous voulez tout de suite avoir des lunettes? Faites les exercices que je vous propose.
Je n'ai pas de temps pour des exercices que j'aurai la flemme de faire. Aucune envie de me mettre entre les pas de qui que ce soit, sur quoi que ce soit. On verra ça l'année prochaine.
Mais l'année prochaine, ça sera peut-être trop tard, c'est maintenant qu'il faut commencer.
Moi, je m'en fous.
48 ans et 6 mois.
Mona. Mona. Mona.
Quoi?
Tu n'entends pas un sifflement, Mona?
Quel sifflement?
Tu n'entends pas?
Non.
Tu es sourde?
Elle tend l'oreille.
Un sifflement comme un filet de vapeur. Très aigu, non?
Non, je t'assure, non.
Je me lève.
Ouvre la fenêtre.
J'écoute la rue.
En effet, le sifflement est dans la rue.
Je referme la fenêtre.
Le sifflement demeure.
Mona, vraiment tu n'entends pas? Je vérifie le branchement du gaz.
La veilleuse du chauffe-eau.
L'étanchéité des fenêtres.
Il est là comme partout ailleurs.
D'une constance entêtante.
Un trait tiré à règle entre mes deux oreilles.
J'ai stress, je suis en panique.
2 ou 3 secondes d'imagination folle.
Et si cela durait toujours?
L'idée d'entendre ce bruit toute ma vie sans pouvoir le moduler est parfaitement terrorisante!
Ça va passer, t'inquiète pas.
48 ans, 6 mois, 5 jours.
Acouphène, bruit perçu par le sujet seul, bourdonnement dans l'oreille, sifflement d'oreille.
Je refuse d'aller fureter dans les librairies médicales. Je refuse de me documenter sur les acouphènes. Hors de question que je m'institue le spécialiste de mon corps.
49 ans et 28 jours.
Mes acouphènes, mes aigreurs, mes angoisses, mes insomnies, mes propriétés, mes insomnies.
Que nous sommes quelques millions à partager.
Notion de syndrome systémique adaptatif.
Monocyte,
bursite,
mort cérébrale.
Diagnostic étiologique.
Colopathie.
Néphrite. Néodépresseur.
Palpitation.
Bursite. Leucémie.
Palpitation.
Cinquante ans.
Encore pris une année.
À qui?
Où sont passées les précédentes?
Les 10 dernières, par exemple. Pendant lesquelles, paraît-il, la totalité de mes cellules,
sauf celles du cœur et du cerveau,
se sont renouvelées.
Prévoyant cet accès de mélancolie, Mona a organisé la soirée de longue date.
Deux places réservées pour voir Bob Wilson. Einstein on the Beach, 5 heures de spectacle.
une symphonie de lenteur.
Exactement ce dont j'avais besoin.
Qu'on me rende ma durée, que mes cellules ralentissent. Lenteur des mouvements, lenteur des comédiens, lenteur. J'ai perdu la notion du temps, la conscience de mon corps.
Je ne pouvais pas dire si j'étais bien ou mal assis.
Un moment d'éternité où, sans doute, mes cellules ont dû cesser de se renouveler.
Générique.
Alpha.
Heinrich.
Ramzi.
Jamel. Aïkel.
Bassir.
Adam.
Ali.
Ryan.
Nabil.
Gérard.
Vianney.
Marco.
Edouard.
Jean-Pascal.
Aurélien.
Olivier.
Sébastien.
Sylvain.
Anouar.
Jérôme.
Antonio.
Jean-Christophe, alias Toto.
José, alias Le Loup.
Gino.
Farez.
Michel.
Mise en voix, Julien Jeskov.
Son et mixage, Oran Duclos.
Le bruit découvert. Je sais pas, il me faisait ça.
C'est le chef d'homme. Qu'est-ce que tu veux leur proposer?